Ici Annie Quentin, aujourd'hui nos invités, Mylène Bédard et Aline Charles.
Bienvenue à Facteurs humains, le balado. Pensée et réalisée par la Faculté des lettres et des sciences humaines de l'Université Laval, cette chaîne vous fait entrer dans les coulisses de la recherche et de la création pour y rencontrer des passionnés de la découverte. D'épisode en épisode, sur le mode de la vulgarisation, jetez un regard nouveau sur le monde avec nos invités, découvrez les questions qui animent leurs projets, voyez tout l'impact des lettres et des sciences humaines sur la société et le savoir.
Bonjour à tous et à toutes. Bonjour Isabelle Claire, notre co-animatrice.
Bonjour Annie.
Aujourd'hui, à Facteurs humains, nous recevons non pas une, mais deux invités qui, chacune à sa façon, chacune dans son champ d'études, s'intéresse à la place, à l'action, à la production des femmes, thème que nous aborderons avec elle. Mylène Bédard, professeure au département de littérature, théâtre et cinéma, chercheuse en histoire littéraire et culturelle du Québec, spécialiste des pratiques littéraires des femmes, du genre des genres de l'intime, de la presse aussi. Bienvenue Mylène.
Merci Annie.
Aline Charles, professeure au département des sciences historiques, chercheuse en histoire sociale, spécialiste aussi de l'histoire des femmes, l'histoire de la santé, l'histoire du travail au Québec, au Canada, au 20e siècle. Bonjour Aline Charles.
Bonjour Annie.
Bienvenue à notre micro. En introduction, comme je le disais, vos travaux invitent à regarder des pratiques culturelles, sociales, artistiques aussi, par le biais de l'angle des femmes. D'abord, mettons une chose au clair. Est-ce qu'on dit études féministes, études sur les femmes, histoire de la littérature des femmes, histoire féministe? Est-ce que tout ça s'équivaut pour vous? Comment définiriez-vous votre pratique?
Tout ça s'équivaut pas, mais dans le fond, il y a peut-être une évolution des expressions qui ont été utilisées dans mon champ. L'histoire, on a d'abord parlé de l'histoire des femmes et ensuite on a parlé de l'histoire du genre. Et après, on s'est intéressé à l'histoire des genres, des identités de genre. Et donc, il y a tout un vocabulaire qui a évolué. Donc, en histoire, mais aussi dans d'autres disciplines. Et puis, on peut aussi le voir sous un autre angle. Et là, à ce moment-là, c'est une perspective plus assumée, plus affirmée. On peut parler aussi d'histoire féministe.
Mm-hmm. Je suis d'accord avec les nuances d'Aline. Toutes les femmes ne sont pas féministes et le féminisme est pluriel. Il faut prendre en compte le contexte social des textes, dans mon cas en littérature. Donc, pour évaluer une prise de parole féministe, ça ne veut pas dire la même chose à toutes les époques. Et puis, moi, j'enseigne à la fois la littérature des femmes, c'est-à-dire sans parti pris sur les prises de position politique, plus ou moins radicale, plus ou moins conformiste ou traditionnelle. Et j'enseigne aussi la littérature féministe avec ce parti pris politique très affirmé, très assumé et ce que ça implique sur les formes poétiques aussi.
Et votre démarche se situe plus à quel bout du spectre, Aline?
Mais moi, je pense que j'explore les deux bouts du spectre.
Les deux bouts du spectre.
Je me suis d'abord intéressée surtout à l'histoire des femmes. J'enseigne aussi l'histoire des femmes, mais récemment, je donnais un cours sur l'histoire des féminismes disons, la fin du 18e jusqu'à aujourd'hui en Occident. Donc, c'est ça. Je travaillais sur d'un bout du spectre à l'autre.
Et vous, Mylène?
C'est la même chose pour moi. J'ai commencé mes recherches sur le 19e siècle, la première moitié du 19e siècle québécois, et je pense que c'est un peu tôt pour parler de féministes. Alors, j'analysais le rapport des femmes à la politique. Évidemment, ma démarche, elle est résolument féministe parce que j'essaie de retracer les femmes dans l'histoire. Et certes, donc, l'approche est historique, mm-hmm. mais la volonté, elle est féministe.
Bien dit. Et quel est votre parcours? Qu'est-ce qui vous a amené chacune à vous intéresser à ces questions, à aborder vos objets de recherche sous cet angle-là?
Moi, je dirais que c'est parti de l'absence. On est des chercheuses, on aime les défis. Moi, quand on me dit Il n'y a pas de femmes qui ont écrit à cette époque, par exemple autour des rébellions. C'est la période qui m'a intéressée au départ pour ma maîtrise et pour ma thèse. Quand on me dit ou que je lis dans l'historiographie, il n'y a pas de femmes, les femmes n'ont pas écrit, n'ont pas pris la parole, eh bien là, moi, plutôt que de m'arrêter à cette injonction très stérile de regarder ailleurs, de travailler sur autre chose, pour moi, là, j'y vois un os, là, à ranger. Et là, j'en démords pas. Je veux retracer les femmes, les mettre en valeur et puis... On finit toujours par trouver parce que, bon, les grilles théoriques, les outils ont été conçus à une époque où il y avait peu de femmes à l'université, on s'intéressait peu au corpus féminin. Donc, il faut les critiquer, ces outils-là, il faut les conjuguer pour faire apparaître les femmes dans les sources écrites, puisqu'elles sont là à toutes les époques. Et il ne faut pas chercher pendant 4 ans pour trouver beaucoup, beaucoup, beaucoup d'écrits de femmes.
Ben, quant à moi, je suis venue d'abord à l'histoire après ce que j'appelle une déviation depuis les sciences pures. Puis ça, j'ai jamais regretté d'avoir fait de l'histoire ma discipline. Et puis, je me suis intéressée à l'histoire des femmes à la suite d'un espèce de coup de cœur qui m'est arrivé au milieu du bac. Je commençais à être fatiguée des études de bac que j'avais trouvées intéressantes d'abord après les sciences pures. Mais là, la nouveauté commençait à s'effilocher.
Il manquait cet os-là qu'avait Mylène.
Tout à coup, je suis tombée sur ce qui est encore l'une des deux synthèses d'histoire des femmes au Québec importantes, celle du collectif Clio, un livre d'un rose flash qui voulait attirer l'attention. Et c'est à partir de là que cet éclair-là m'a pu quitter et donc j'avais l'impression de découvrir un monde dont je n'avais jamais entendu parler jusque-là. Un monde évidemment qui se situait dans le passé, mais qui faisait plein d'échos de toutes sortes avec la situation actuelle. Et depuis, j'y suis toujours restée.
Vous parlez, Aline, vous venez de dire un monde que vous ne connaissiez pas. Mylène parlait d'absence, de silence sur des objets ou sur des perspectives. Qu'est-ce que nous révèle en particulier de l'histoire ou de la littérature lorsqu'on s'intéresse aux femmes qui font cette littérature, qui font cette histoire? Par rapport aux histoires peut-être traditionnelles, aux lectures de la littérature, aux compréhensions de la littérature qui nous ont été données, par rapport à ce qu'on pourrait dire, ces autres formes peut-être plus traditionnelles, moins en marge, plus instituées, de faire la recherche dans ces domaines-là.
Moi, ce que je dis à mes étudiantes et mes étudiants, c'est que d'aborder la littérature par le prisme des femmes, ça nous incite à porter un regard épistémologique sur la discipline, un regard critique sur la discipline, comment on construit le canon, c'est-à-dire les grandes œuvres qui sont enseignées, qui se retrouvent dans les histoires de la littérature, comment on construit cette sélection-là et qu'est-ce qu'on repousse dans les marges. Et systématiquement, ce qu'on repousse dans les marges, pour le 19e, pour le 20e siècle, et même encore pour le 21e siècle, ce sont beaucoup des femmes. Donc, de voir que tout ça s'est construit. Donc, de porter un regard critique, politique sur les objets culturels. Donc, je pense que d'aborder la littérature ou l'histoire par les femmes, ça nous oblige à avoir cette vision-là, à la fois macroscopique et microscopique sur notre discipline. Puis après, d'étudier la parole des femmes, mais là, on voit à l'œuvre, il me semble... la parole des femmes constitue une sorte d'observatoire du monde social d'une époque donnée. C'est-à-dire, quel interdit il faut contourner pour prendre la parole lorsqu'on est une femme au 19e siècle, au début du 20e siècle, dans les années 70. Donc, on a accès à une espèce de condenser, je trouve, des possibles et des interdits d'une époque. Comment on réagit à certains textes, même encore aujourd'hui, comment on a réagi à l'apparition de Putain de Nelly Arcand, l'espèce de panique morale sur l'hypersexualisation. Donc, je trouve que les parutions des femmes nous révèlent dans un condensé les peurs, les angoisses d'une époque et qui concernent beaucoup le féminin et sa place dans la sphère publique.
Puis, j'ajouterais que ça permet aussi, en fait, je pense en littérature comme une histoire, à ce niveau-là, c'est à peu près, les objectifs peuvent être très similaires. Je pense que ça permet aussi non seulement de découvrir des femmes, les femmes, comme groupe, mais ça permet, comme un groupe, mais aussi un groupe qui est très diversifié, donc il ne faut pas, surtout pas homogénéiser, mais ça permet aussi de penser le féminin et le masculin tels qu'ils sont définis à différentes époques, mm-hmm. d'analyser les rapports entre hommes et femmes dans différents contextes. Pour moi, l'histoire, elle a aussi cette grande qualité. Mais là, je vais peut-être prêcher pour ma paroisse, mais je ne peux pas m'en empêcher. L'histoire, c'est ma discipline. Et je suis très consciente qu'elle n'est pas la seule à faire tout ça, mais c'est celle que je préfère probablement parce que tout simplement, j'y travaille depuis longtemps. Mais je dirais que ça permet, ce que je trouve, ce qu'apporte cette discipline de particulier, c'est qu'elle permet de nuancer le caractère d'évidence comporte certaines réalités ou pratiques actuelles. Puis là, je vais te faire une forme de clin d'œil à Mylène parce que je vais m'aventurer sur son terrain. Par exemple, je prends un exemple. Aujourd'hui, on parle beaucoup de la nécessité de féminiser la langue. Or, il y a une historienne de la littérature, donc dans ton domaine, française, qui a fait une histoire de l'Académie française, donc cette institution française qui réglemente depuis le XVIIe siècle la langue française. Et elle montre que l'Académie en question a en fait masculinisé la langue, surtout à partir du XIXe siècle. Elle a donc fait, dans ce processus, elle a fait disparaître des mots féminins qui étaient alors tout à fait acceptés au XVIe, au XVIIe et encore au XVIIIe. Les mots qu'on retrouve aujourd'hui, comme par exemple celui d'autrice, qu'on voit de plus en plus ressurgir. On voit aussi le féminin de médecin qui était accepté à l'époque, c'était médecine, ou encore ministresse, capitanesse, etc. Et donc, cette académie a fait disparaître un certain nombre de déclinaisons féminines de mots. Et elle a aussi, par la même occasion, elle voulait faire un bon travail, et elle a fait un excellent travail, édicter de nouvelles règles d'accord. Donc, c'est elle qui a dit, par exemple, que le masculin l'emporte toujours sur le féminin en termes d'accord, et qu'il est en plus neutre. Etc. Et donc, vu d'aujourd'hui, ce sont des travaux qui m'apparaissent super intéressants, parce qu'ils montrent que la langue française a déjà mieux pris en compte le féminin qu'elle ne le fait aujourd'hui, que cette règle du masculin, par exemple, qu'il emporte sur le féminin, n'a rien de naturel en français, qu'elle n'a pas été de toute éternité, et puis qu'on peut aussi penser on peut aussi penser autrement aux luttes actuelles. On peut les penser sous un autre angle, en se disant qu'il ne s'agit peut-être pas tant de féminiser la langue que de la démasculiniser. Et donc, ça donne une autre... Mm-hmm. Et donc, on peut créer comme ça des liens entre passé, présent et repenser autrement certaines des luttes qu'on mène actuellement, en les rendant éventuellement plus... pas plus faciles, mais en montrant qu'elles ont peut-être plus de potentiel qu'on pourrait le croire au départ.
Et est-ce que cette nuance-là dont vous parlez toutes les deux, est-ce qu'elle a sa place maintenant bien établie en recherche? Est-ce que dans le discours scientifique?
Elle a une place, ce qu'elle n'avait pas, disons, les études féministes. Bon, c'est toujours difficile en histoire d'identifier le moment zéro d'une évolution. Mm-hmm. Mais bon, disons qu'avant les années 50, il était difficile de parler d'études féministes comme telles, et même pour pouvoir le faire avec assurance, il faut peut-être attendre les années 60-70 pour vraiment le faire. Et donc, je pense qu'elles ont une place, mais c'est une place qui n'est pas aussi importante qu'elle le devrait, et c'est probablement pas aussi une place qui est aussi acquise qu'on le croit le plus souvent.
Oui, comme Aline, je crois que c'est toujours très, très fragile. Je me suis intéressée un peu à l'histoire de mon département par le biais de la figure de Jeanne Lapointe, qui est la première femme professeure à la Faculté des Lettres, première professeure de littérature, pardon, à la Faculté des Lettres en 1940. Et elle a eu une très, très longue carrière et elle s'est... formée aux études féministes à la fin de sa carrière dans les années 70-80. Et puis, entre elle et moi, il n'y a pas beaucoup de jalons. Il n'y a qu'une seule professeure qui a occupé le poste. Et quand on est la seule à occuper ce domaine-là, donc pendant les années d'études de recherche ou lorsqu'on quitte ou on prend la retraite, ben c'est pas dit que le poste sera renouvelé. Et s'il n'est pas renouvelé immédiatement, ben il y a des couches successives d'oubli hein, qui recouvrent tout le domaine qu'on a établi et qu'il faut reconstruire. Il y avait aucun cours quand je suis arrivée dans mon département en 2015 qui portait l'intitulé femme ou féministe. Mm-hmm. Donc j'ai dû mes collègues étaient tout à fait favorables, mais j'ai dû discuter,
rebâtir
le champ. Et je pense que dans les autres départements aussi, on n'est pas trois ou quatre spécialistes des études sur les femmes ou sur les études féministes. Et puis, parfois, lorsqu'on veut aller chercher des collègues qui ont aussi cette expertise-là, ben on craint le redoublement, alors que les hommes qui travaillent sur les hommes, ben il y a pas cette même crainte là de mm-hmm. que les approches se recoupent, les corpus se recoupent. Donc comme si lorsqu'on s'intéressait aux femmes, on pouvait couvrir plusieurs siècles, tous les genres littéraires, oui, tout à fait. Donc je pense que c'est pas acquis et il faut s'assurer de laisser des traces pérennes dans les programmes, créer des programmes avec cette signature-là, comme le certificat, des concentrations. Donc, construire l'infrastructure pour qu'elle ne repose pas sur une seule personne, je pense que c'est une des solutions à privilégier.
Ouais. À privilégier, mais qui n'est pas beaucoup plus appliquée que dans mon département. Je pense que je suis l'une des seules, et puis je ne sais pas encore pour combien de temps, parce que ben, je vais sûrement un jour porter le département. et pour l'instant, et dans mon département, on est en plus deux femmes seulement, maintenant. Donc ça, c'est une évolution. Bon, ça tient à la démographie du département, ça tient à toute une série de facteurs, bien évidemment, mais le résultat des cours, c'est quand même celui-là.
Absolument, mais ce que vous dites, c'est que ça ressemble beaucoup, c'est un reflet de société aussi. C'est jamais fini non plus... sur le plan social.
C'est jamais acquis.
C'est jamais acquis.
C'est jamais acquis.
Donc, la lutte est... Que ce soit, de toute façon, le regard du spectre complet, hein, mais je veux dire, faire avancer cette... Il n'y a rien d'acquis, là.
Non, puis on a peut-être tendance à surestimer les progrès qui ont été faits. Et là, je parle de conditions féminines de manière générale, Et on pense que maintenant, c'est plus nécessaire, le féminisme. Il y a toute une série d'acquis, toute une série de lois qui protègent les droits des femmes, etc. Mais non, on voit bien que dans plusieurs endroits, il y a des reculs sur ce plan. Il y a des lois qui ne sont pas appliquées. Et il faut les protéger encore. Donc,
Et là, toute la définition du concept féministe, moi, je ne suis pas féministe. Moi, je suis féministe. Et selon ce qu'on entend par derrière ça, là. Donc, c'est encore assez étonnant de voir que le sens donné au mot féministe est encore pas clair pour bien des gens.
Tout à fait.
Je me demandais, mais ça, c'est une curiosité, comme historienne, est-ce que vous travaillez beaucoup avec des corpus littéraires?
Non, relativement peu, je dois l'avouer.
OK.
Mais en fait, où ça dépend ce qu'on appelle des corpus littéraires, parce que là, je vois...
je vois
Mylène me dire oui, c'est ça. Parce que j'ai travaillé beaucoup avec la correspondance intime de femmes. Donc, pas des textes littéraires au sens de publication, de romans, d'œuvres littéraires, mais oui, la correspondance intime, et en particulier pas des journaux intimes, mais la correspondance intime ou individuelle. Par exemple, j'ai travaillé avec des lettres de femmes âgées qui ont écrit au premier ministre de la province, qui est à l'époque Taschereau, dans les années 30, pour réclamer, en tant que citoyenne, une pension de vieillesse, alors qu'à l'époque, les femmes n'avaient même pas le droit de vote. Mais elles s'affirmaient citoyennes en réclamant au premier ministre en exigeant tout simplement qu'il remplisse la promesse qu'il avait faite pour ces élections.
Mais j'ai étudié aussi, comme toi, la correspondance. Et c'est sûr que les littéraires puristes ne considèrent pas que c'est de la littérature. Moi, je considère que c'est de la littérature parce que, comme le dit Cécile Dauphin, une historienne, oui. Justement, je m'appuie sur une historienne pour justifier la littérarité.
C'est ça que j'allais vous demander.
De mon corpus. Et puis elle dit, les littéraires, on cherche la belle lettre avec des métaphores, mais il y en a des métaphores dans toutes les lettres. Il y a une sensibilité qui s'exprime, un imaginaire qui s'exprime chez les femmes âgées, au premier ministre, entre écrivaines. Parfois, les lettres des écrivaines sont peut-être moins littéraires que celles des non-écrivaines qui, pour se construire une identité politique qui ne va pas de soi, doivent user de stratégies discursives pour légitimer leur prise de parole. Donc, tu es un peu une littéraire malgré tout.
Oui! J'accepte l'étiquette, j'en suis touchée même.
Et vous, une historienne, ça?
Oh, mais ça, je pense qu'elle a cette étiquette, là, c'est sûr.
On voit les atomes crochus entre vos démarches. Est-ce qu'on suit la même démarche selon qu'on étudie l'histoire des femmes ou la littérature des femmes? Peut-être nous parler d'un de vos projets, par exemple, qui permettrait d'illustrer votre démarche.
Bien, si je reviens à l'exemple des lettres de femmes que j'ai utilisées, je dirais que peut-être oui, effectivement, je faisais jusqu'à un certain point une sorte d'analyse littéraire dans la mesure où je m'intéressais à la façon dont ces femmes qui venaient de milieux populaires, qui n'avaient pas l'habitude d'écrire, mais pas du tout, et qui s'adressaient au premier ministre en sachant bien que c'est un personnage très important et qui connaissaient pas les formules en usage, les formules de politesse en usage ou même son titre complet et qui lui écrivaient « Son Excellence, Monsieur le Premier ministre » ou « Bienheureux Premier ministre » ou monsieur, et aussi ça allait dans la formulation, le ton qui était utilisé, dans certains cas très 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 poli, presque en s'excusant, et d'autres qui étaient beaucoup plus affirmatifs, et c'était, et là je cite, ça va faire. C'est assez. Si vous ne nous donnez pas ce qu'on veut, on va demander une élection au peuple. Et ça, c'était mis avec beaucoup de points d'exclamation. Et la façon de signer sans donner toutes les indications qui, en principe, viennent avec une signature qui doit être... Parce que c'est une lettre qui attend une réponse. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à partir d'un certain moment, l'État a considéré nécessaire de répondre à ces femmes âgées. Et c'était aussi des hommes âgés, mais disons en particulier à ces femmes âgées. Et c'était des réponses qui étaient relativement de type formulaire. Mais ils ont dû chercher, dans bien des cas... à compléter les adresses qui étaient indiquées parce que c'était comté de Missisquoi ou quelque chose, mais ça donnait pas l'adresse complète. Le nom était pas toujours complet non plus. Donc il y avait, il y avait aussi une certaine il y avait toute une série de stratégies qui étaient utilisées par ces femmes pour parce qu'elles étaient aussi très conscientes des normes sociales et du contexte de la période. On est à une période où ce qui est en place, le modèle en place, c'est celui de l'assistance aux pauvres. On n'est pas en train, dans les années 30, on ne parle pas de droit à une pension. Et donc, certaines vont entrer pleinement dans cette rhétorique en disant « Vous êtes le bon père des citoyens de la province, nous faisons appel à votre générosité légendaire, etc. etc. » Tandis que d'autres étaient plus sensibles à d'autres formes de discours qui étaient présents à cette époque, en mettant de l'avant plutôt « Non, non, c'est maintenant de plus en plus une question de droit, après une vie de travail pour la société, pour la province, des impôts payés, etc. Nous avons droit à une pension. Donc il y a à la fois dans les formules préutilisées, mais aussi dans les renvois à des modèles explicatifs. Je pense qu'il y avait ce genre-là. Est-ce que je m'en tire pas trop mal?
Oui, mais je me rends compte à quel point, parce qu'on n'a pas toujours l'occasion, en professeur de d'autres disciplines, d'échanger, discuter de nos projets de recherche, qu'il y a beaucoup, beaucoup de parenté entre les projets que tu mènes ou que tu as menés et ceux que j'ai menés. La lettre, oui, nous permet d'avoir accès à des modèles. Hein. J'imagine que, comme moi, tu as consulté des manuels épistolaires et rhétoriques où on donne des modèles pour à peu près tous les types de lettres, une lettre à son fils, à son parent éloigné, etc. Donc, avec les formules de politesse d'usage. Peut-être la différence entre nos deux approches, c'est que, ben, à moins que tu l'aies fait aussi, moi, je me suis aussi beaucoup intéressée à la forme des lettres, c'est-à-dire à l'écriture, aux ratures, aux métaphores, aux effets de dramatisation pathétique pour créer des images très fortes. C'est drôle, tu parlais des femmes âgées au premier ministre. Moi, ce sont des femmes, des lettres de femmes de patriotes au gouverneur britannique en 1837, 38, 39, 40. Donc, les femmes ne sont pas considérées comme des citoyennes. Donc, ça ne va pas du tout de soi qu'elles écrivent au gouverneur. Parfois, elles choisissent même d'écrire à la femme du gouverneur, puisque c'est une distance qui est peut-être plus facilement négociable de s'adresser à une femme d'État qu'à un homme d'État. Ces lettres sont laissées sans réponse. Elles cherchent à la dernière minute de faire libérer leur mari ou d'éviter à leur mari les pendaisons publiques après les rébellions. Donc, c'est ça. Je me suis intéressée à la forme, à l'absence de signature, ce que ça dit de l'éducation de ces femmes-là aussi, dont on sait très peu de choses à l'époque. Donc, je pense que nos deux approches, ben, je pense qu'il faut faire les deux bacs. Le bac en histoire, le bac en littérature.
Pour avoir
une formation complète.
Voilà.
Avec le certificat en études féminines.
Puis pour les autres disciplines, on verra après.
Oui, on verra.
Mais justement, qu'est-ce qui pourrait faciliter ou favoriser cette rencontre-là? Est-ce que vous voyez des pistes? Vous évoquiez, Mylène, le certificat en études féministes. Peut-être nous en parler, si vous pouvez.
Ben, c'est un certificat... c'est Aline qui parle. C'est un certificat un certificat qui est offert par l'Université Laval au premier cycle et auquel j'ai pas mal sur lequel j'ai pas mal travaillé. Et c'est un certificat dont je suis plutôt... assez fière.
Avec raison.
Même si c'est un certificat qui a été développé autour de deux disciplines, donc cette idée d'une multidisciplinarité ou interdisciplinarité qui traverse dans le fond la plupart des études féministes depuis presque leur début. Donc ici, il s'agissait des disciplines de socio et d'histoire. Et je pense que là, il n'y avait pas de réflexion très, très... C'est parce que les deux personnes qui travaillaient sur la mise en place de ce certificat venaient de ces deux disciplines-là et qu'il fallait des attaches institutionnelles qu'on ne pouvait pas démultiplier, tout ça. Cela dit, c'est vraiment une caractéristique, effectivement, des études féministes de revendiquer et de mettre de l'avant parmi leurs spécificités la multidisciplinarité ou l'interdisciplinarité, ou si on veut être plus réaliste, peut-être d'une certaine connivence, familiarité, des ponts qui sont jetés avec d'autres disciplines. Parce que multidisciplinarité, interdisciplinarité, je ne suis pas toujours sûre qu'on y arrive si bien que ça. Mais au moins, il y a toujours eu un intérêt pour ce que disaient les autres disciplines. Et la mise en place de certificats qui font intervenir et résonner entre elles différentes disciplines, ça a été mis en place dès les débuts, je pense, dès les débuts des années 70-80.
Je me permets de vous demander d'expliquer peut-être pour les auditeurs la différence entre multidisciplinarité puis interdisciplinarité?
Multidisciplinarité, c'est peut-être quand on place les disciplines côte à côte. Et donc, par exemple, on peut parler d'un programme multidisciplinaire quand il fait intervenir des cours de différentes disciplines. On parlerait davantage d'interdisciplinarité si on parle d'un cours qui articule des perspectives, par exemple, littéraires et historiennes. Ou sociologique
et littéraire.
Communicationnel. Oui, c'est ça, je cherchais autre chose que les deux que je venais de dénoncer. Et donc, c'est parce que ça force une toute autre réflexion, ça force la personne qui veut faire une étude qui veut développer une approche interdisciplinaire, doit essayer de jongler avec les deux à la fois. Tandis que c'est pas tout à fait la même chose que de suivre un programme multidisciplinaire où on va être confronté de façon subséquente,
séquentielle,
une discipline après l'autre. Et en fait, l'interdisciplinarité serait peut-être la subsumation de la multidisciplinarité.
D'accord, merci.
Et quel est le profil de vos étudiants et étudiantes? Ou quel type de travaux font-ils, font-elles?
Les étudiantes que j'accompagne, par exemple, à la maîtrise doctorat, ont fait, pour la plupart, le parcours en études littéraires. Parfois, il y en a qui viennent du bac en enseignement du français au secondaire, par exemple, et qui veulent poursuivre au deuxième cycle pour peaufiner leur formation en études littéraires. Donc, il y a ce profil-là, mais dans les cours où il y a un intitulé femme, genre, sexualité, identité, là, on va chercher un bassin d'étudiants, d'étudiantes beaucoup plus large, à mon avis, parce que, comme je le disais tout à l'heure, souvent, on est les seuls spécialistes dans notre département. Donc, on donne un ou deux cours de spécialité par année. On donne des cours de service, c'est-à-dire des cours obligatoires qui n'ont pas forcément la perspective femme, même si nos couleurs personnelles ressurgissent dans notre enseignement, dans le choix du corpus. Mais donc, je pense que les étudiantes et étudiants qui sont vraiment intéressés par la formation en formation de féministe ou d'études sur les femmes vont avoir la curiosité intellectuelle d'aller chercher les cours dans d'autres disciplines pour parfaire ce regard-là sur les objets et peut-être poursuivre au deuxième, troisième cycle en ayant les perspectives disciplinaires connexes qui permettront de bien cerner leur objet d'étude.
Mais les étudiantes ou les étudiants qui ne sont pas capables de développer une perspective réellement interdisciplinaire sont rares. Le système universitaire ne s'y prête pas, malgré tous les grands mots d'ordre qui ont été lancés en faveur de l'interdisciplinarité. En fait, l'infrastructure des programmes est avant tout disciplinaire. Les systèmes de bourse sont disciplinaires. Les départements sont disciplinaires. Donc, ça s'y prête moins. Mais effectivement, on a des étudiants qui peuvent avoir, disons, un parcours qui va se situer dans une discipline. Dans le cas de Mylène, c'est la littérature. Dans le mien, c'est l'histoire. Mais qui vont avoir une sensibilité assez affirmée pour une autre discipline. Mais je ne suis pas certaine que ça en fait des interdisciplinaires pour autant. Comme moi, je pourrais dire que je flirte très souvent avec la sociologie, mais c'est du flirt.
Et ils s'intéressent à quoi, Aline, vos étudiants et vos étudiantes?
Ah ben, j'en ai de toutes sortes. J'ai une étudiante qui a déposé sa maîtrise il y a deux, trois ans sur les hommes forts du Québec. Et donc, qui, dans une perspective féministe et une perspective qui mettait de l'avant le genre, s'intéressait au modèle de masculinité que représentaient les hommes forts du Québec dans les concours qui étaient organisés, qui ont été organisés et qui sont encore organisés jusqu'à récemment, et qui remontent très loin dans le temps, mais aussi dans l'imaginaire comme tel. J'en ai une autre qui vient de déposer une super maîtrise sur les réseaux clandestins d'avortement organisés par les groupes féministes des années 70, en particulier à Montréal, et dont on connaissait très, très peu de choses, sur lesquelles on connaissait très, très peu de choses. J'ai une étudiante de doctorat, c'est ça, qui s'intéresse cette fois-ci aux pratiques alimentaires, ou à l'article Le genre et la question des pratiques alimentaires, de l'art de la table et aussi des normes alimentaires qui encadrent la préparation des repas et qui définissent aussi la féminité au 20e siècle. Voilà, c'était juste un échantillon.
C'est un échantillon, mais je me demandais, celle qui a travaillé sur justement les avortements clandestins, sur quels...
Les archives des groupes féministes.
Il y en a.
Et elle les a fait parler, mais elle s'est appuyée sur ses archives, mais elle a fait aussi, et c'est ce qui rend son mémoire encore plus intéressant, elle a fait aussi une série d'entrevues avec les militantes de la période, donc des années 70.
Ah!
Et contrairement à plusieurs enquêtes d'histoire orale, ces informatrices ont accepté d'être nommées. Et donc, ce sont des têtes d'affiche de ces mouvements. Et donc, ça voulait dire qu'on pouvait faire toute une série de liens avec des personnes qu'on est capable d'identifier par d'autres biais.
Oh, merveilleux!
C'était merveilleux.
Puis elles l'ont accepté, en fait, parce que, justement, pour la cause.
Exactement. Oui, tout ça, c'est dans une perspective féministe, militante, affirmée et affichée, à la fois des informatrices et aussi de l'autrice, étudiante.
Exactement.
Qui s'appelle Marie-Laurence Rabhi.
Oui, puis c'est bien, ça documente, puis ça montre à quel point parce que le débat sur l'avortement, malheureusement,
ressurgit,
toujours actuel. Donc, je trouve que le mémoire tombe à point pour rappeler aussi que dans un passé pas si lointain, il y a eu ce réseau-là clandestin qui, malheureusement, menace de réapparaître dans certains États des États-Unis.
Tout à fait. J'ajouterais que si on pour donner un éventail et donner c'est ça l'idée de l'écart qu'il peut y avoir entre les différents sujets, et j'en ai une autre qui travaille en ce moment sur la villégiature féminine au Québec, les sports féminins de villégiature au Québec et en France, et donc elle s'intéresse à toutes les prescriptions en ce qui concerne, parce qu'on est à ce moment on parle ici de femmes de classe moyenne et aisée, comment dans ce milieu-là, dans ce temps qui est très particulier de la villégiature, quels étaient les sports qui étaient pratiqués et considérés acceptés pour des femmes, de quelque âge que ce soit, quelles étaient les tenues qui étaient prescrites, on peut arriver jusqu'à la mode, à faire une histoire féministe de la mode.
C'est étonnant ce que vous dites, parce qu'en fait, on pense à la villégiature masculine, parce qu'on entend toujours parler des chasseurs, de toute cette histoire. Donc, on pense chasse, on pense pêche, où on voit. Mais on a moins d'images, effectivement, de villégiature femme.
Mylène Bédard, Aline Charles, ça a été un bonheur de vous recevoir à notre micro aujourd'hui.
Ce fut le nôtre.
Merci
beaucoup.
Plaisir
merci.
Partagé. Merci.
Au revoir.
Facteur humain est la chaîne officielle de balado-diffusion de la Faculté des lettres et des sciences humaines de l'Université Laval. Pour plus de balados, visitez le flsh.ulaval.ca/web/diffusion.